Bien. Bonjour, mesdames, messieurs. Comme vous voyez, nous avons retrouvé notre salle habituelle. On va reprendre nos vieilles habitudes ici. Bien. Alors, nous allons ainsi continuer à observer cette divinité qui naît, puisque c'est la catégorie, qui est le dieu Vrtrekna. Nous avions commencé lors de la conférence précédente à analyser le livre assez particulier, assez original, pour diverses raisons sur lesquelles nous reviendrons encore, que Émile Benveniste, l'iraniste, et Louis Renou, l'indianiste, avait consacré à cette divinité. Et là... Donc, selon l'analyse des épithètes de Vrtrekna, des épithètes qui sont les plus fréquemment attribuées aux dieux, a été menée comme troisième volet de son analyse par Émile Benveniste, donc sur le versant iranien des choses. Et cette analyse systématique des épithètes que je vous ai signalée la fois dernière, curieusement, ne figure pas dans le programme. Lorsque Benveniste, avec beaucoup de précision méthodologique, nous dit « on va faire comme ça », il parle de restituer avec précision le sens des mots, de ne pas procéder par choix d'exemple, mais d'analyser un matériel exhaustif. Mais il ne parle pas de ce troisième aspect de sa méthodologie. Alors, j'avais terminé, je pense, la dernière leçon en vous signalant assez rapidement les problèmes qui vont se poser. 1934, Émile Benveniste avait prononcé en 1926, il avait 24 ans, à la Sorbonne, la première Ratanbai Katrak Lecce. Il s'agissait de conférences financées par un Parsi de Bombay qui s'appelait Katrak. C'est une grande famille sacerdotale, il y en a encore aujourd'hui, les Katrak. Et Benveniste avait prononcé en français, à la Sorbonne, ces leçons qui sont parues 3 ans plus tard, en 1929, dans une traduction anglaise, il le fallait bien, puisque les Parsis, en général, ne comprennent pas le français, ils étaient financés par ce mécène. « Persian religion according to the chief Greek text ». Or, la doctrine de base de ces 4 conférences d'Émile Benveniste est que l'Iran ancien est une mosaïque sectaire, c'est-à-dire, au sectaire au sens de Max Weber, c'est-à-dire un ensemble de sectes religieuses diverses, dont le zoroastrisme n'en est qu'une. Pour Benveniste, son exposé le dit avec beaucoup de force et de vigueur, le zoroastrisme est une réalité, dit Benveniste, dramatiquement limitée. Il est seulement l'apanage d'une toute petite communauté. Et dès que cette communauté va grandir, va s'étendre, va entrer en contact avec les autres sectes iraniennes anciennes, eh bien, elle va se transformer. La doctrine va se transformer par une série d'adaptations successives. C'est ce que, comme historien de l'histoire des religions dans le domaine du mazdéisme, Albert de Jong, que vous avez pu entendre, je crois, ici, faire 4 leçons il y a, je crois, 3 ans, appelle l'école fragmentante. Vous voyez ce qu'il veut dire par là, fragmenting school, c'est-à-dire l'interprétation du paysage religieux de l'Iran ancien par une multitude de sectes. Émile Benveniste aussi, c'est le premier volet de son analyse, est adepte à cette époque. Je ne sais pas si plus tard il a changé d'avis, peut-être, il y a de curieux textes à la fin de sa carrière. Mais en tout cas, à cette époque, il est l'adepte d'une intrigue historique pour expliquer la religion Tlavesta, ou le zoroastrisme si vous voulez, d'une doctrine évolutive qui est très ancienne, puisqu'elle avait été formulée dès 1862 par Martin Hauck, dont nous avons fréquemment parlé. Or, Hauck, n'est-ce pas, a une vision extrêmement complexe des origines du zoroastrisme. Elle est bien sûr, elle date. Elle nous paraîtra un peu surannée, bien entendu. Il y a là une sorte de, bon, de théorie romantique qui aujourd'hui nous amuse un peu, n'est-ce pas ? Alors, Hauck raconte l'histoire suivante, car au fond, c'est monter une intrigue, c'est monter une petite histoire. Il raconte l'histoire suivante. Lorsque les Indiens et les Iraniens se séparent, les Iraniens s'installent dans l'est de ce qui est aujourd'hui l'est du domaine iranien, hein, dans le nord de l'Afghanistan ou l'Ouzbékistan d'aujourd'hui, ils deviennent sédentaires. Nous n'avons naturellement pas la moindre preuve, hein. C'est une assertion de Hauck. Les Indiens continuent leur chemin et ils restent nomades jusqu'à ce qu'ils aient atteint le Pendjab. Voilà la donnée de base de l'analyse de Hauck. Or, vous savez qu'il est aussi une image tentante qui nous dit toujours que les agriculteurs sédentaires sont des gens paisibles, tandis que les nomades sont des gens sanguinaires, etc. Eh bien, c'est l'image que va naturellement exploiter Hauck, disant bien, ces nomades d'Indiens vont faire subir aux agriculteurs iraniens sédentarisés un nombre énorme de razzias, et de razzias réussies. Dès lors, les Iraniens vont attribuer le succès des razzias adverses à leur efficacité sacrificielle. Ils vont prendre en haine, de la sorte, la religion indienne dite des Devas. Et ils vont développer de leur côté, en iranien Daiva, ça deviendra le nom des démons, et ils vont développer une religion des Asuras, une autre catégorie de divinité, ce qui deviendra en Iran, la religion des Ahura, le nom est dans le titre, ce titre est dans le nom d'Ahura Mazda. Ici, il y a à nouveau, bien sûr, un pur postulat. Hein. Il n'a jamais été possible de démontrer véritablement que l'on faisait la distinction entre deux classes de divinités indo-iraniennes, les uns étant les Devas, les autres étant les Asuras. Les titres de Deva et d'Asura sont distribués apparemment avec la plus parfaite indifférence. Donc il y a, ça c'est d'une manière générale, c'est ce qu'on peut objecter à cette intrigue de Hauck. Ça c'est le premier niveau, voilà. D'abord, développement d'un polythéisme parfait, mais modifié, hein, puisque une catégorie de divinité est rejetée au bénéfice d'une autre. Deuxième mécanisme, alors ça, c'est la prise de conscience monothéiste par un personnage appelé Zarathoustra, dont nous aurions le témoignage écrit, ce serait des gathas, et qui consiste donc à isoler un Ahura parmi les autres, et cet Ahura est celui qui porte le nom de Mazda. Donc, le schéma de Hauck est établi sur un double mouvement. D'abord, une modification du polythéisme indo-iranien ancien, et puis dans le cadre de ce polythéisme revu, la prise de conscience monothéiste. Sans doute que Benveniste ne partage pas un peu le côté un peu naïf de la représentation de Hauck, c'est certain. Il a des choses, une autre conscience, encore qu'il y ait un peu dans son Vertra Vertrakna, un peu de ce que j'appellerais de la science militaire de cabinet, n'est-ce pas, Mais le problème n'est pas là. Alors, ce schéma, il le conserve. Il le conserve de telle sorte qu'il va reconnaître la religion des Ahura dans le texte de l'Avesta lui-même. Or, les divinités mazdéennes, dans l'Avesta récent, sont très fréquemment qualifiés de Mazda Data. C'est un composé d'un type extrêmement fréquent, un adjectif passé passif en second terme, et en premier terme, son agent. Comme ceci veut dire mis en place, ou donné, mais c'est, dans ce cas, c'est mis en place par Masdar. Adjectif agent. Bon, c'est clair, hein, le nom du dieu est Ahura Mazda, on se réfère à la personnalité précise de la divinité qui porte le nom de Mazda. Or, lorsqu'il est question de la terre, le nom de la terre, Zm, Idvertrakna, ce sont les deux seules entités qui partagent cette caractéristique. On ne trouve pas Mazda Data. Leur rapport au monde divin, calqué sur cette expression, est Ahura Data. Ahura Data. Eh bien, pour Benveniste, c'est significatif. Il faut comprendre, mis en place par les dieux Ahura, pas par Mazda, hein, par les dieux du système posé à l'origine par Martin Hauck. Voilà, dit-il, nous avons la preuve, avec Vertrakna Ahura Data, que nous avons la vieille divinité indo-iranienne, une vieille divinité indo-iranienne, qui n'est pas encore affectée par le mazdéisme ou par le zoroastrisme, et qui est définie comme Ahura Data. Donc, c'est là véritablement l'un des fondements, hein, l'une des grandes caractéristiques de la pensée d'Émile Benveniste à cette époque. Oui, Passion Religion, je vous le disais, 1929, Vertra Vertrakna, 1934. Or, en 1930, donc entre les deux dates, 1930, Lommel avait proposé une autre version des origines du zoroastrisme que l'on définit comme le schéma dialectique. Il n'y a pas de mouvement à l'origine, n'est-ce pas ? Il y a la religion indo-iranienne représentée par le Rig Veda et dont les Iraniens ont hérité. Rejet massif de l'univers divin, de ce polythéisme indo-iranien par Zarathoustra. Donc il y a la thèse, l'antithèse, et puis, par compromis, élaboration d'un autre type de polythéisme marqué par le zoroastrisme dont témoigneraient les textes des Yashts dont nous parlons et l'Avesta récent, synthèse. Ben, c'est le schéma dialectique. Pour Lommel, il n'y a pas d'époque polythéiste assourienne ou aourienne, si vous voulez. Ça n'existe pas. Il y a une mise en cause immédiate du polythéisme par le prophète Zarathoustra. Bon, le livre de Lommel expose pour la première fois ce schéma, c'est 1930. Vous voyez, c'est curieusement, c'est entre les dates des deux livres de Benveniste. Et Benveniste n'en dit pas un mot. Benveniste n'en dit pas un mot dans Vertra Vertrakna. Il se contente d'exposer une hypothèse qui donne une version un peu plus moderne dans le ton et aussi dans certains détails que celle de Hauck. Mais il est clair que pour Benveniste, cette épithète-là, Ahura Data, est significative et elle témoigne de l'existence de ce qu'il appelle un Vertrakna archaïque. C'est le Vertrakna de l'époque archaïque. Il n'ose pas dire pré-zoroastrienne. Hein, il ne dit pas cela, mais d'autres pourraient le dire à sa place. D'autres épithètes ici, je ne vais pas les analyser parce qu'elles nous emmèneraient très loin, mais semblent faire de Vertrakna un dieu qui régit, qui gouverne, qui organise les différents âges de la vie humaine. Il rend pubère, il rend caduc, vieux. Il rend aussi fracha, c'est-à-dire les caractéristiques positives de l'état de résurrection. Donc, il est le dieu qui veille sur ce processus qui fait qu'un homme passe de la jeunesse à l'âge adulte, puis à la vieillesse, à la mort, et enfin à l'état de ressuscité. Or, dans cette représentation, c'était aussi une grande caractéristique de son livre de 1929 et de ses exposés. Émile Benveniste reconnaît la trace d'un système religieux qui est appelé le zervanisme. À cette époque, vers 1930, on fait grand cas de cette doctrine religieuse. Or, nous devons notre information sur ce type religieux iranien aux chroniqueurs musulmans du 7e, 8e siècle, donc c'est très tardif, qui nous disent que certaines sectes mazdéennes se font des choses la représentation suivante. Elles mettent au centre de la doctrine un dieu moralement, éthiquement indifférencié, qui est le temps sans bord, le temps éternel, et qui est le père à la fois d'Ahura Mazda et de son contraire Ahriman. Donc une sorte de suppression du dualisme, comme on l'a dit, puisque le dieu du bien et le dieu du mal sont les rejetons d'un dieu indifférencié qui est leur père et qui est le temps. Or, dans le courant des années 20, c'est pour cela que l'on parle beaucoup du zervanisme à partir vers 1930, on avait cru reconnaître des traces de zervanisme dans le manichéisme 4e siècle de notre ère. On avait cru aussi en déceler des traces dans le mithriacisme romain, ce qui vieillissait le zervanisme de quelques siècles, ce qui semblait le rendre beaucoup plus intéressant pour une analyse des données religieuses les plus anciennes, y compris celle de l'Avesta. Et dans les conférences de 1929, Émile Benveniste le dit de manière tout à fait explicite, il pense que toutes les expressions, toutes les sectes religieuses de l'Iran ancien sont influencées pareillement par le zervanisme. Il fait du zervanisme son hypothèse, qui ne sera jamais démontrée et pour cause, n'est-ce pas, et que le zervanisme est la grande caractéristique qui va à terme différencier l'Iran de l'Inde sur le plan religieux. C'est le zervanisme dans l'esprit de Benveniste. C'est pas une idée nouvelle. Anquetil du Perron y avait pensé. C'était donc vraiment, il faut remonter aux origines de notre science et de nos recherches, n'est-ce pas, pour voir les traces de cette idée. Depuis lors, bien sûr, l'analyse de Benveniste de 1934 à ce sujet est elle aussi caduque. Hein. Nous avons bien sûr rappelé le zervanisme à l'ordre. Pas plus personne aujourd'hui, on va même jusqu'à nier l'existence d'une véritable secte zervanite, même aux alentours de l'époque où parlaient les chroniqueurs musulmans. Il y a deux articles extrêmement fondateurs pour cela. C'est celui que Marie-Jeanne Mollet a donné au Journal asiatique de 1959. Il montre l'inanité de l'hypothèse zervaniste 1959. Et il y a des articles plus récents de Shaul Shaked, qui est un iraniste contemporain et qui est un grand spécialiste du monde religieux iranien de l'Empire sassanide. Donc c'est un aspect, c'est peut-être l'aspect le plus caduque du livre de Benveniste que de tenter de stratifier la personnalité de Vertakhna. Et puis enfin, troisième strate, la dernière, la strate zoroastrienne, si vous voulez, on voit que par ces épithètes que Vertakhna est contaminé par les divinités qui composent l'escorte du dieu Mitra. Ça, il faudra nous le réserver, l'escorte de Mitra. Ce ne sera pas pour aujourd'hui. Mais c'est un phénomène qui vaudra la peine d'être examiné. Et effectivement, dans l'escorte de Mitra, l'on trouve un certain nombre de divinités dont les plus fréquemment mentionnées sont la déesse Ashi. Elle, ce n'est même pas son escorte, hein, ne roule pas en char à côté de Mitra. Elle est son ourige, elle est celle qui conduit le char de Mitra. Mais à ses côtés, roule dans leur char à eux, Srausha, que nous connaissons bien depuis l'an dernier, son acolyte Rajnu, dont nous ne comprenons pas très bien le nom. Et puis aussi Vertakhna. C'est la composition de l'équipe. Et naturellement, comme membre de l'équipe de Mitra, Vertakhna va partager avec les autres un certain nombre d'épithètes. Alors voilà, nous pouvons voir la manière dont Benveniste a organisé les choses. Un dieu archaïque indo-iranien, Vertakhna, dont la nature est révélée par l'épithète Ahura Mazda. Un dieu marqué par le zervanisme, qui est la grande caractéristique initiale du monde religieux iranien. Et enfin, la contamination finale avec le monde qui gravite autour de Mitra. C'est une stratification à laquelle nous ne pouvons plus croire aujourd'hui. À Ouradata, je vous le rappelle, je vous fais cette remarque il y a longtemps, nous savons aujourd'hui que, bon, Ouradata n'est pas une qualification distincte de Mazda Data. Comment se présentent les choses ? Ahura Mazda porte deux noms. Si vous souhaitez faire introduire le nom de Mazda dans un composé nécessairement deux termes. Donc, en premier terme, comme agent de data, on ne peut pas mettre les deux termes. Il n'y a pas de composé à trois termes. Il faut nécessairement choisir. Il faut choisir l'un des termes. On choisit le plus significatif. Ça va de soi. Le plus significatif, c'est Mazda. C'est la raison pour laquelle Mazda Data est le composé le plus souvent utilisé. Mais l'on a malgré tout eu recours à un composé Ahura Data. Pourquoi ? Bien, écoutez, il suffit de compter sur ses doigts. Hein. Mazda Data, quatre syllabes. Ahura Data, cinq syllabes. Donc, le choix était essentiellement dicté par la métrique. C'était la métrique qui, comme cela a été démontré maintenant depuis, de façon absolument certaine depuis quelques articles, un article que j'ai rédigé tout au début de ma carrière, dans les années 70, et puis Panaino, dont je vais parler de l'intervention dans le problème de Vertrakna bientôt, a donné les arguments décisifs. Plus personne aujourd'hui ne croit qu'Ahura Data réfère à autre chose que la religion mazdéenne elle-même. Donc cet aspect de l'analyse de Benveniste est certainement celui qui aujourd'hui est le plus contesté. Bien, alors, comment va... J'en viens à la conclusion. Hein, j'en viens à la conclusion. Pour Benveniste, l'Iranien témoigne de la solution originale. Nous ne devons pas... l'état indo-iranien des choses est celle de l'Iranien. D'abord... Il faut faire intervenir le sens original des mots. Le sens original des mots, vertra, la défense, l'obstacle, l'empêchement, et le mot original, et son genre est neutre. L'Indien aussi connaît ce mot, donc le mot est commun. Il est neutre aussi régulièrement, comme tous les dérivés en tra. Il est neutre aussi en indien. Et très significativement, comme le montre Renou, dès lors qu'intervient un démon appelé Vertra, le seul cas masculinisant de la déclinaison, c'est-à-dire le nominatif singulier, hein, puisque c'est le seul cas où le neutre diffère du masculin, eh bien, il n'y en a pour tout le Rig Veda que deux attestations. Donc, le seul cas masculinisant est extrêmement et pauvrement attesté. Alors, la conclusion est celle-ci. Il n'y a jamais eu de Vertra en Iran, dit Benveniste, parce que la personnification de l'obstacle est une innovation indienne. Et il n'y a plus de Vertrakna en Inde, parce qu'en Inde, justement, l'innovation l'a emporté. Hein le dieu Vertrakna, c'est a été assimilé par le dieu Vertra. Dès lors, on peut se représenter l'évolution du côté indien. On vient de parler de l'évolution du côté iranien. Benveniste propose le schéma suivant. À l'origine, il y a un dieu victorieux. Il est Vertrajan, ou une allégorie de la victoire, Vertrakna. On peut le restituer. Il y a d'autre part la lutte d'un héros humain contre des êtres vivants chaotiques, des monstres. La mythologie grecque, comme vous savez, en est pleine. Combat contre des dragons, contre des serpents, des hydres, contre des géants aussi. Donc, le combat d'un héros humain contre des êtres vivants abnormes. Et c'est le cas d'Indra. Remarquez qu'en passant, Émile Benveniste fait l'hypothèse qu'Indra, à l'origine, n'est pas un dieu, mais un héros humain. Un héros humain. Il donne toutes les raisons qu'il a de le croire, car il est vrai que le Rig Veda est particulièrement précis, explicite et descriptif quant aux caractéristiques physiques d'Indra, qui sont celles d'un gros buveur, d'un gros mangeur, etc., n'est-ce pas, et qui donne l'impression d'avoir affaire à un héros qui n'a pas une personnalité divine, mais humaine. Ensuite, ce combat contre les êtres abnormes implique un troisième motif qui est celui de la libération des eaux. Si les eaux sont prisonnières, s'il faut les libérer, c'est qu'elles sont bien entendu enfermées. Elles sont donc l'objet d'un vertra, d'un empêchement, d'un obstacle. Et dès lors, le combat pour la libération des eaux, comme celui est assimilé à celui contre les monstres, et vertra, l'empêchement, est personnifié en un adversaire direct de Indra. Alors, si vous voulez bien, vous avez Madame Azarnouch, nous allons un peu nous résumer à cet endroit-ci de l'exposé. Je vais reprendre, je l'avais fait la fois dernière, mais ça vaut la peine pour souligner les différences. Hein. L'opinion traditionnelle, juste en 1934, était que, premier point, le dieu Indra tue le démon Vertra, et pour cela, il est appelé Vertrahan, c'est-à-dire tueur de Vertra. Or, deuxième point, le dieu indien Vertrahan a pour correspondant iranien le dieu Vertrakna. Alors, comme troisième membre d'un syllogisme, en quelque sorte, donc Vertrakna est le nom iranien d'Indra, et le meurtre de Vertra est un mythe indo-iranien. Telle était la doctrine traditionnelle avant la parution du livre de Benveniste. Bon, après l'enquête de 1934, de Benveniste et Renou, voici comment les choses se présentent. L'État indo-iranien, c'est un dieu victorieux, donc qui est Vertrajan, je donne une forme restituée qui serait celle de l'indo-iranien, et où une allégorie de la victoire, Vertrakna. Alors, du côté indien, c'est sur la droite ou sur la gauche, selon, l'absorption du dieu par un héros humain, Indra, qui est tueur de monstres. Hein, un héros humain tueur de monstres. Ensuite, contamination de cette lutte d'un héros contre des monstres avec un mythe de libération des eaux, et Vertra devient le nom d'un démon. Du côté iranien, on conserve l'allégorie indo-iranienne, Vertrakna, conservation de l'allégorie indo-iranienne, dans un état pré-zoroastrien des choses. Enfin, cette divinité, cette allégorie, reçoit une coloration zervaniste, qui en fait un dieu qui régule, qui règle, qui gouverne les différents âges de la vie humaine. Enfin, il y a contamination zoroastrienne avec la déesse Chista, qui est une des déesses de l'escorte de Mitra dont nous parlions. Enfin, plus tard, car il y a quand même quelques pages dans le livre qui y sont consacrées, il y a l'élaboration d'un grand dieu guerrier à l'époque sassanide qui parfois, et même souvent, est assimilé à Héraclès. Hein ? Donc voilà l'hypothèse finale de Benveniste. Alors, bon, nous en avons déjà fait plus ou moins la critique. Hein, ce qui se trouve ici, bien sûr, du côté iranien, est sujet à caution. Hein. Croyons plus aujourd'hui au fait que Ahuradatta serait significatif. Nous avons renoncé à l'hypothèse zervaniste, donc tout ceci est devenu caduque. Alors, du côté indien, on ne peut pas faire une critique radicale, mais on peut tout de même on peut entretenir un certain scepticisme. D'abord, la contamination avec un mythe de libération des eaux qui survient de manière relativement tardive et comme dernier élément de l'évolution. On a fait valoir dès la parution du livre dans ses comptes rendus que l'Arménie connaissait un héros, Vahakne, Severtragna, qui tout de même combattait un monstre. Il n'y a pas, bien entendu, et c'est là-dessus que Benveniste ne l'ignorait pas, il a fait allusion à ce mythe, mais en argumentant de telle sorte qu'il fait un argument décisif du fait qu'apparemment, il n'y a pas de liaison avec la libération des eaux. Nous y reviendrons encore. Donc, il y a eu un certain scepticisme sur le caractère tout à fait secondaire du mythe de libération des eaux. Alors, bien sûr, là, le scepticisme, on peut certainement le reproduire aussi. Est-ce que Indra a véritablement pour origine la figure d'un héros humain ? C'est le grand dieu du panthéon védique. Quel que soit le caractère assez pittoresque dont on le décrit physiquement, hein, c'est un problème, n'est-ce pas, les représentations, vous savez, le problème des représentations littéraires des choses est un problème aussi complexe que les représentations iconographiques. Les représentations iconographiques, certainement, elles nous laissent mesurer ce qui est peut-être le caractère des formes humaines que prennent les divinités, mais les choses ne sont pas très claires non plus en littérature. Et c'est aussi une étude qui pourrait être menée de savoir pourquoi, à certains moments, et avec quelle valeur en littérature, le corps des dieux, avec des formes humaines, entre en ligne de compte. C'est très clair pour Mitra, certainement, dans l'Avesta même. Hein, c'est certainement le dieu qui est le plus humanisé, du point de vue physique. Pas l'insistance sur ses bras est quelque chose de très fréquent, oui. Mais un autre dieu védique est aussi un dieu qui typiquement possède des bras, c'est Savitar. C'est le dieu Savitar, ce qui signifie très clairement l'incitateur. Or, Savitar incarne justement la durée du jour. Hein, quand il se lève le matin, quand il vient le matin avec la durée du jour, eh bien, on a envie de se mettre en mouvement, d'aller travailler au champ ou d'aller à la chasse, etc. Et le soir, mon Dieu, il donne l'envie d'aller se coucher. Hein. Mais dès lors, les bras de Savitar, il est très clair, un de ses bras est le soleil levant et l'autre, le soleil couchant. Et très probablement que dans les représentations de Mitra, il y a quelque chose d'équivalent. Donc on ne doit pas toujours prendre au pied de la lettre les représentations physiques des dieux. Il y a de la mythopoésie aussi dans ce genre de choses. Oui, alors maintenant l'origine, l'état iranien des choses. Dieu victorieux et ou une allégorie de la victoire. Bon, depuis 1960, un article décisif à ce sujet de Paul Thiem, qui insiste fort, en bon grammairien, sur la différence de formation. Nous l'avions commenté la fois dernière, Vertrajan est un composé adjectif, Vertrakna est un composé abstrait, allégorie. Or, ce n'est pas du tout la même chose. On ne peut pas voir, on ne peut pas mettre en équivalence, comme le dira Thiem, les deux mots. Et si l'on doit restituer une réalité indo-iranienne, ce sera plutôt l'allégorie de la victoire. L'allégorie de la victoire, Vertrakna. Voilà donc la critique que l'on a pu faire de la nouvelle représentation des choses proposée par Émile Benveniste et Louis Renou. Alors, que pouvons-nous dire d'une manière plus générale ? Nous pouvons dire que j'avais fait allusion lors de la dernière conférence au contraste que l'on pouvait remarquer entre la grande rigueur méthodologique du livre et le caractère défectueux de ses résultats. Nous pouvons y revenir. Comme vous voyez, la méthodologie a parfaitement fonctionné, a très bien fonctionné. Nous avons rétabli le sens exact des mots. Enfin, nous, Benveniste et Renou, ils ont rétabli le sens exact des mots. La terminologie est maintenant précise, sa valeur initiale est restaurée, tout est clair. L'analyse, dit Benveniste aussi, insiste sur, c'est une chose intéressante, sur le fait que c'est la dernière phrase de son livre, et elle est extrêmement frappante. « Mythologie comparée tant que l'on voudra », dit Benveniste, « mais aussi mythologie séparée ». séparés. C'est intéressant en 1934, aussi d'un point de vue historiographique. Pour ceux d'entre vous qui s'intéresseraient à l'histoire des idées, vous savez qu'il y a un débat entre les historiographes sur le fait de savoir si la mythologie comparée qui a conduit au système des trois fonctions a pour véritable inventeur Benveniste ou Dumézil. Il semble que Dumézil et que Benveniste, excusez-moi, ait dès 1932, et dans, mais sans entrer dans beaucoup de détails, deux ans avant Vertrai et Vertrakna, jeté les bases d'une mythologie comparée trifonctionnelle, tout au moins de l'indo-iranien. Et puis, il a vogué vers d'autres horizons, comme vous savez, et Dumézil a bâti son œuvre, une œuvre très complexe hein, et extrêmement vaste, sur ce système de la mythologie comparée et de l'analyse fonctionnelle. Bon. Mais ici, donc, cela sonne comme une sorte de critique, n'est-ce pas, à ce qu'il avait fait lui-même jusque-là, et il ne pouvait pas, bien sûr, prospectivement en faire une critique adressée à Dumézil, que par ailleurs, nous le savons bien, il a toujours approuvé. Hein. Il n'y a pas eu de rivalité entre les deux hommes, il n'y a pas eu de dissension profonde. Mais c'est une note un peu isolée dans l'œuvre de Benveniste, que cette nécessité de faire de la mythologie séparée, et qui est littéralement mise en œuvre, puisque d'un côté, lui-même s'occupe de la mythologie iranienne, et lui renoute la mythologie indienne. Donc, le livre lui-même donne l'exemple de ce que cela peut être. Et la fécondité de la méthode est remarquable, parce que l'on voit surgir des tas de problèmes que l'on n'avait pas vus surgir avant. Et là, nous allons y revenir. Autre chose aussi, une autre idée intéressante qui apparaît, c'est que la doctrine traditionnelle, encore de nos jours, n'est pas, c'est que l'Inde est conservatrice, et l'Iran novateur, son innovation principale étant le zoroastrisme. Eh bien, le livre de 1934 aboutit à une conclusion totalement inverse, et ce sera une des rares œuvres qui feront cette affirmation, c'est qu'au contraire, c'est l'Iran qui est conservateur et l'Inde innovante, en tout cas sur ce schéma. Alors, là aussi, c'est une idée intéressante et qu'il nous faudra peut-être tenter de vérifier. Alors, je voudrais, maintenant que nous avons vu les deux schémas qui ont été proposés, pourrait éventuellement, après critique, voir ce qu'il en reste. Comment le schéma initial d'avant 1934 a-t-il été modifié par l'analyse de Benveniste-Renoux? Comment les critiques que l'on a faites à l'analyse de Benveniste-Renoux ont-elles amené aussi à modifier le schéma? Vous voulez peut-être... Alors, il y aurait un schéma que j'ai intitulé « Vulgate », parce que c'est le schéma que l'on peut rencontrer depuis peut-être 1960, hein, dans tous les exposés sur la religion iranienne, et qui a, après 1934, alors... L'on voit bien que l'on pose à l'origine, effectivement, l'origine indo-iranienne, une allégorie de la victoire qui est Vertrakna. Après l'intervention de Paul Thiem, c'est l'évidence. Certains pensent peut-être tout de même qu'il faut ouvrir la possibilité d'une personnification à date ancienne de Vertra, d'où j'ai fait figurer son nom dans le schéma, mais pourvu d'un point d'interrogation. Alors, il y a du côté indien, on voit que ce dieu Vertrakna est absorbé par Indra, qui est, comme le montre aussi Paul Thiem dans cet article du Journal of American Society de 1960, un dieu composite, extrêmement composite. Il a effectivement des traits humains, dit Thiem, mais c'est un dieu qui tue des dragons, car Vertra n'est pas sa seule victime. Hein. Il tue des dragons, c'est des ahis. Il est meurtrier des ahis aussi. Enfin, c'est le libérateur des eaux. Mais comment toutes ces caractéristiques d'Indra peuvent-elles chronologiquement s'assembler? C'est une chose que nous ne sommes pas en mesure de distinguer. Donc, il faut bien voir que le Vertrakna est certainement assimilé par Indra, mais Indra est une personnalité composite. Alors, du côté iranien, il y a un Vertrakna un dieu indo-iranien, pré-zoroastrien, que l'on croit ou non, que l'on croit ou non au témoignage du composé Ahura Datta. Je fais remarquer que Paul Thiem, en 1960, était resté attaché à la conception de Hauk Benveniste d'une religion antique, donc des Ahuras iraniens précédant le monothéisme zoroastrien. Paul Thiem est toujours resté attaché à cette représentation des choses. Donc lui ne va certainement pas renoncer à ce chaînon. Mais si l'on n'y croit pas, les partisans du schéma dialectique de Lommel peuvent très bien s'en tirer en posant un Vertrakna indo-iranien. Et puis alors, voici, ce vieux dieu pré-zoroastrien survit à la réforme zoroastrienne, réapparaît, et il réapparaît comme compagnon de Mitra. Le zoroastrisme a fait son œuvre, il a changé le premier Vertrakna en le deuxième Vertrakna. Voici donc l'histoire, le schéma simplifié, le schéma passe-partout finalement, auquel l'on a réduit, combiné la vision traditionnelle et la vision de Renoux Benveniste. Une année clé pour l'évolution de la problématique sera l'année 1995. C'est l'année où paraît le livre de Watkins, Calvert Watkins, le grand comparatiste américain, élève de Benveniste d'ailleurs, et joliment intitulé de manière humoristique « How to kill a dragon in Indo-European ». Comment tuer un dragon en indo-européen. Bon, ça, c'est la première œuvre, mais la même année, 1995, paraît le second volume d'Antonio Panaino sur le dieu Tishtria du Yashtavit. Or, les deux livres amènent à reconsidérer le thème de la libération des eaux. Ce qui m'a amené, ces deux livres m'ont amené en 2001 à publier un article intitulé « Les saisons des rivières » que je pastichais un peu du Mésil dans le volume de mélange qui avait été offert à Anders Huldgaard. Or, le mythe de libération des eaux, il y en a trois dans la Vesta. Il y en a trois. Le premier figure dans le Yasht 13. Nous en avons parlé lorsque nous avons analysé les divinités Fravashi. Au moment même où le monde matériel mobile se met en marche parce qu'il a subi l'assaut du mauvais esprit, les divinités Fravashi, c'est-à-dire ces âmes humaines préexistantes et qui incarnent la capacité à faire le bon choix sacrificiel, elles sacrifient ce qu'elles avaient toujours projeté de faire. Elles se tiennent verticales, dit le texte, se tiennent verticales et le feu et la pensée de leur sacrifice s'opposent à l'attaque contre le monde de l'esprit mauvais. Et l'esprit mauvais, contrecarré, ne parvient pas à empêcher les rivières de couler et les plantes de pousser. Donc, si bien qu'aujourd'hui, nous dit le Yasht 13, les eaux coulent, les plantes germent, se reproduisent, poussent. Le monde, en quelque sorte, fonctionne. Il fonctionne bien. Grâce à cette intervention des Fravashi à la jointure entre la deuxième et la troisième période de l'histoire du monde. N'oublions pas l'état mental, l'état matériel immobile, l'état matériel mobile sans la religion, l'état matériel mobile avec la religion. Il est encore trop tôt pour parler de théorie des millénaires et dire combien ces quatre états vont durer parce que l'Avesta ne le dit pas. Alors, à la jointure du monde matériel immobile et du monde matériel mobile, il y a un mythe de libération des eaux, dont les Fravachis sont les héros, hein, s'opposent par le sacrifice à l'obstacle que pourrait représenter l'esprit mauvais. Hein. Je dirais que, vous voyez, est-ce un mythe de libération des eaux? Pas vraiment. On pourrait dire que c'est un mythe de libération à l'envers. On empêche une tentative d'asservissement des eaux. Les eaux ne sont jamais retenues prisonnières. Non, l'esprit mauvais n'y arrivera pas. C'est un mythe de libération à l'envers. C'est celui-là. Alors, là, nous en sommes à Panaïno. Tichtria, c'est l'étoile responsable de la chute de la pluie. Ça ne se passe pas là dans un passé lointain. Ça se passe chaque année. Chaque année, le processus est le même. Je vous le résume rapidement, je l'avais fait plus en détail à l'époque où nous parlions des Fravachis. Eh bien, le lever de l'étoile Tichtria est observable en même temps que celui du Soleil, ce qui nous laisse penser que c'est Sirius, hein, vers la fin du mois de juillet, hein, vers le solstice d'été. Alors, l'étoile Tichtria commence son activité à ce moment-là. Vous me direz, c'est un drôle de moment pour faire tomber les pluies, surtout en Iran. Oui, mais ça va durer longtemps. Ça va durer longtemps, parce que Tichtria a beaucoup de travail devant lui. Il doit d'abord passer à travers le réseau des étoiles filantes, qui sont démoniaques. Il doit les éviter. Ensuite, et vous savez qu'il y a durant l'été des moments d'ailleurs bien espacés et bien définis, différents moments où il y a des chutes d'étoiles filantes particulières. Mais il doit échapper à ça. Puis il va se rendre vers la mer Vorukasha, c'est-à-dire le réservoir céleste des eaux. Et alors il y a une transformation mythopoétique. Vous voyez la forme que prennent les dieux. Hein. La mer présentée comme une jument, et Tichtria comme un étalon. Et ils vont entamer, si vous voulez, la danse nuptiale. La danse nuptiale. Oui, mais un autre prétendant va apparaître sous la forme d'un autre cheval. Naturellement, Tichtria, la forme d'un beau cheval, son adversaire d'un laid cheval, qui est chauve, pelé, etc., tout ce que vous voulez, bien sûr. Mais il y aura une compétition entre les deux étalons. Tichtria ne l'emportera pas tout de suite. Il faudra sacrifier, doublement sacrifier. Les hommes doivent sacrifier, mais les dieux aussi doivent sacrifier. Et finalement, il chassera son adversaire, qui est le démon de l'évaporation. Le démon de l'évaporation. Et dès lors, les pluies, l'eau de la mer Vorukasha, dans le tumulte de l'accouplement, va déborder. Et d'autres divinités, à ce moment, vont prendre le relais, diriger les nuages vers la terre, faire tomber la pluie, etc. Et cela a pris 100 jours. Cela prend 100 jours, car effectivement, la chute de la pluie, c'est normalement la fin du mois de septembre. Fin du mois de septembre. Alors, ça, c'est un mythe saisonnier. Hein. C'est quelque chose qui doit se reproduire chaque année. Ça se reproduit chaque année. Et le succès n'est pas assuré. Hein. C'est un mythe qui traduit l'angoisse, n'est-ce pas? On évalue la chance de la pluie et la chance de ce qu'on appelle la mauvaise année. La mauvaise année, ça veut dire la sécheresse, la disette, la famine. Donc, c'est une lutte toujours recommencée. Ce n'est pas un mythe de libération non plus, quoique Panaïno aimerait bien le présenter comme ça. Il aimerait bien le présenter comme ça. Alors, tout ça paraît fort différent de ce qui se passe avec le mythe d'Indravartrahan qui tue un serpent qui enserre les eaux dans les boucles de son corps. Mais il y a une autre histoire, il y a un troisième mythe qui se produit durant le troisième âge du monde, c'est-à-dire à l'époque du monde matériel mobile, sans la religion, et qui est mené, comme l'a montré Watkins, par le héros Traitauna. Or, Traitauna porte un nom que nous ne comprenons pas bien, mais dans lequel il y a en tout cas le chiffre 3, ou plus exactement l'ordinal, le troisième. Mais Traitauna, le mot est plus complexe. Il y a autre chose. Or, dans tous ces combats contre les monstres, Indra est aidé par un acolyte. Il y a beaucoup d'acolytes dans la religion indo-iranienne. Et cet acolyte, il s'appelle très simplement Trita, le troisième. Le troisième, parce qu'il est, bon, en latin, c'est encore très vivant, hein, Quintus, Sextus, etc. On reçoit pour prénom son rang dans l'ordre des fils. N'est-ce pas ? Trita, c'est le troisième, parce qu'il est sans doute le troisième fils d'une famille. Et ce Trita, donc, est Indra dans ses... dans ses exploits. Alors, ici, tout de même, nous avons quelque chose qui va devenir beaucoup plus précis. Alors, comme le montre Watkins, l'on peut poser une formule de base qui a pour structure sémantique, pour le dire en français, et Watkins le fait en anglais, mais c'est le héros, sujet, son nom, tué, verbe jan, si nous sommes en avestique, han en sanskrit, serpent, objet. En indo-iranien, agi, ahi. Or, Traitauna est ce héros du côté iranien. Traitauna est un tueur de serpents. Il est celui qui élimine ce monstre que nous avons rencontré en parlant d'Apamnapat et qui est Ajidahaka, le serpent d'Ahaka. Or, nous pouvons, si vous voulez bien, voir avec quelle étendue et quelle profondeur, n'est-ce pas, on peut établir entre la terminologie des mythes d'Indra ou de Trita, avec celui de Traitauna, avec quelle profondeur de parallèle nous devons travailler. Donc, si vous voulez bien, voici deux phrases, l'une du Yasht 19-36-37, avestique donc, et que nous mettons en parallèle avec un extrait de la strophe du Rig Veda 10-99-6. J'ai réduit ces passages à leur squelette commun. Hein, tous les mots ne sont pas là. Mais ce qui nous intéresse, ce sont évidemment les parallèles. Traitauno, sujet. Trito. Donc quelque chose où nous trouvons troisième. Alors, tué. Ça, c'est le héros. Tué. Janat. Pluriel. Il a tué. Traitauna a tué. Han, du côté, c'est le même verbe. Trita a tué. Alors, le mot ahi ne se trouve pas dans le vers védique. Mais cet ahi que nous connaissons bien, c'est un ahi en réalité. Nous ne trouvons ici que son nom. Son nom, c'est Dasa, le serpent Dasa. Évidemment apparenté à Dahaka. Dahaka, Dasa Dahaka. Les deux mots ne se différencient que par un suffixe diminutif du côté, ou familier, hein, du côté iranien. Très rare d'ailleurs en avestique. Ce qui faisait dire à Hoffman que peut-être que ce mot signifie, était un mot étranger, en tout cas pas un nom avestique. C'est peut-être un emprunt à une tribu ennemie. Donc, et qui doit d'ailleurs, Dasa ou Dahaka doit vouloir dire impie. Or, ils ont des caractéristiques. Quelles sont les caractéristiques ce Dasa et de ce Dahaka? Eh bien, du côté avestique, il est tricamurdum. Il a trois têtes. Il a trois têtes. Trishirshanam, c'est la même chose, trois têtes. Le choix des mots n'est pas le même, ce sont des synonymes, mais la réalité descriptive est là. Hein. Dasa a trois têtes. Il est aussi Shvash Hashim. Il a six yeux. Il a six yeux. Shalaksham, six yeux aussi, du côté de Rig Veda. Oui, alors il y a autre chose. Quel est le pouvoir respectif des deux adversaires? Eh bien, comme vous allez le voir, et cela Renou l'avait relevé dans son analyse de Vertra-Vertrakna en 1934, il y a ce que l'on appelle, disait Renou, dans la terminologie du Rig Veda des phénomènes de compensation, c'est-à-dire que l'on procède à l'échange des pouvoirs respectifs des adversaires. Alors, c'est assez étonnant ici, parce que regardez, le pouvoir de Traitauna, c'est Veeratravastamo. Veeratravastamo, il est résistant, il représente un obstacle, il résiste. Il est détenteur, c'est même au superlatif, il est détenteur de la force défensive, donc Vertra. Tandis que son adversaire, Trito, lui, il procède, il frappe, il tue à l'instrumental Ojasa, avec force violente. Ojas, c'est la force violente, avec la force violente. Or, l'adversaire Ajidahaka de Traitauna est Ashaujankam. Il est rempli de force violente. Donc, vous voyez, il y a eu sur l'Ojas et le Vertra sont renversés entre les deux exemples. L'Ojas appartient à Trita dans le Rig Veda, mais appartient à Ajidahaka dans le Yash de 19, et Traitauna, lui, exerce la force défensive, alors que ailleurs, dans d'autres passages, c'est même peut-être la seule personnalité humaine de la Vesta qui est définie de cette manière-là, il est Vertrajan. Traitauna est Vertrajan, et je dirais en passant que de tous les héros du passé mythique, Traitauna est celui qui s'approche le plus d'une personnalité divine, puisqu'il a eu un yasht. Il y a eu un yasht de Traitauna. Aucun autre héros du passé mythique ne semble avoir eu ce privilège. Lui, il l'a eu, et nous en avons d'ailleurs conservé un tout petit fragment. Or, il est Vertrajan, n'est-ce pas ? Ici, on a renversé les choses, c'est lui qui exerce l'obstacle, alors que d'ordinaire, il le brise. Alors, il faut dire que tout de même, nous avons ici des ressemblances énormes, où sont combinés des adversaires monstrueux, des héros humains. La force, soit offensive, soit défensive. Un héros qui porte un nom ou figure, l'ordinal troisième, beaucoup de choses en commun. Et tout ça est établi dans le même formulaire. Il ne manque qu'une chose, et c'est de cela que Benveniste avait fait argument. Où est le rapport avec l'eau ? Dans le mythe de Traitauna, il semble n'y avoir aucun rapport avec l'eau. Non, mais tout de même, si, parce que Ajidahaka, souvenez-vous de ce que nous avons raconté à propos d'Aparmenapat, hein, lorsque Ajidahaka entre en compétition avec le feu pour s'emparer du Kwarna, il représente l'élément liquide. Il s'oppose au feu, avec succès d'ailleurs, en menaçant de le faire tomber à l'eau. Il habite, nous dit le Yasht 5, c'est Ajidahaka, dans le pays du castor. Donc, bien. Or, aussi, que se passe-t-il tout de même ? Entre le moment où Yima va mourir, premier homme, et le moment où Zarathustra va apparaître avec la religion, eh bien, il y a le grand hiver, ça se produit à la fin du règne de Yima. Hein, le grand hiver va faire mourir la plupart des vivants, sauf quelques-uns. L'hiver, c'est-à-dire l'eau est paralysée. Hein, et il semble que jusqu'à Zarathustra, jusqu'à son prédécesseur immédiat dans l'ordre énumératif qui est le Kavihaosrava, n'est-ce pas, nous ayons affaire à une vaste lutte pour récupérer le climat, sortir de l'hiver et pour récupérer les eaux. Hein. On le voit, n'est-ce pas? Bon, Traitauna fait la plupart de ses exploits auprès de la Rankha, c'est-à-dire l'océan du bout du monde. Son successeur, Kursaspa, débarrasse le réservoir céleste des eaux d'un monstre qui hante le réservoir céleste des eaux. Manushchitra, qui est le petit-fils de Traitauna, jusqu'au dernier Kavi à Ostrava qui précède Zarathoustra, tous affrontent le même adversaire que nous connaissons bien. Il apparaît dans l'histoire du Kouarnas, qui est Frank Gracian. Puis d'autres héros de cette époque se font tomber la pluie. Et on voit donc que c'est toute une longue histoire qui consiste à récupérer non seulement le climat, mais aussi le cours des eaux, puisque Vishtaspa, par exemple, compagnon de Zarathoustra, évolue sur le cours direct, sur le cours terrestre des eaux, sur le bassin fluvial qui mène au lac Amoun. Bon, on pourrait multiplier les exemples, mais ici nous avons peut-être véritablement un mythe de libération des eaux, parce que c'est reprendre les eaux à ce qui les a figées, à ce qui les rend inopérantes, à ce qui les paralyse, qui est le gel profond. Et c'est aussi s'assurer la mainmise sur le réseau fluvial de la terre d'Iran, ce qui est le sujet, en quelque sorte, de l'histoire des Kavi. Voilà donc une histoire qui, tout de même, nous amène à voir que peut-être le meurtre d'un dagon, la libération des eaux et la notion d'obstacle sont peut-être un thème hérité, hein, dans un thème indo-iranien tout de même hérité et que nous pouvons restituer pour l'époque indo-iranienne commune, hein, que nous restaurons avec l'astérisque. Je suis obligé de m'arrêter, je ne vais pas continuer, mais nous résumerons ceci la première fois et nous allons la prochaine fois tenter de dresser un autre type de tableau qui tienne compte de tous les éléments qui sont apparus depuis lors. Et nous commenterons bien sûr ce que cela représente pour notre propos. Je vous remercie.